Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Ça se passe généralement la nuit. On n'entend rien arriver, on entend le troupeau qui bouge, qui se déplace pas très rapidement parce que c'est une bête qui arrive doucement et qui n'a peur pas beaucoup le troupeau. On ne voit rien. Ou alors si on se lève et qu'on éclaire avec des lampes qui sont puissantes, on voit les deux yeux qui brillent un peu plus loin ou l'ombre du loup, mais pratiquement rien. Il a peur de l'homme, il a peur de la lumière. Quand on se lève et qu'on éclaire, il s'en va.
Le loup est certainement l'une des espèces qui suscite le plus de sentiments opposés, qui questionne largement la notion du vivre ensemble entre les hommes et le sauvage. Mais quand vous avez vécu à ses côtés, sans forcément le croiser, tout en étant au contact des éleveurs, au cœur du parc national du Mercantour, véritable écrin de la biodiversité, votre quête de comprendre cette histoire commune devient une raison d'être. C'est l'histoire de Caroline Audibert avec nous. Aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enfant de ces grands espaces et de cette nature abondante. Vous êtes philosophe de formation, journaliste et auteur notamment du livre « Des loups et des hommes » paru aux éditions Plomb. Et donc vous êtes parti sur les traces de ce loup qui avait disparu du territoire français il y a 25 ans et qui a repris ses droits sans pour autant être accepté par tous. La voix est libre avec vous, surnommée par certains la fiancée du Mercantour. Et en seconde partie d'émission, nous croiserons votre parole avec celle d'un invité surprise, lui-même engagé depuis des années dans cette défense de la nature sauvage. De cause à effet, première émission de l'année 2019, en partenariat toujours avec le service Planète Sciences du Monde et préparé toujours aussi par Anaïs Morales avec la complicité de Anne Gouzon, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisé par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Élise Le et Nicolas Delmas. Bonjour à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année que nous vous souhaitons à tous belle et heureuse.
Ouais. De belles traces, ouais.
Ouais, adulte, ouais. Et ça remonte à plusieurs jours, hein.
Nous sommes dans le vallon de Molière, surnommé la vallée des loups. En juillet 1993, La vie de Jacques Audibert bascule. 60 ans après la disparition du loup en France, il est le premier témoin à authentifier son retour.
Il était mort dans une avalanche, dans une coulée de neige, qu'il avait plié sur l'arbre mort. Je l'ai pris à deux mains, je l'ai saisi, et vu la taille d'un mètre trente, un mètre quarante, il n'y avait plus de doute. C'était bien le prédateur. Le fait que ce fût le premier animal qui a été identifié depuis un demi-siècle, qu'il avait disparu, c'est quand même l'événement d'une vie.
La voix de votre père, Caroline Audibert, votre père qui venait de trouver donc ce premier loup de retour en France, une découverte qui signe donc le retour du loup il y a 25 ans et qui marque très franchement votre enfance. Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 13 ans quand mon père a découvert ce premier loup dans le vallon de Molière. Et c'est vrai que lorsqu'il m'en a fait le récit, alors que nous remontions au refuge qu'il tenait avec ma mère, au refuge d'altitude, c'est un récit qui m'a vraiment fortement marqué, qui a marqué mon imaginaire. C'était le ressurgissement d'un fauve, hein, d'un animal qui appartenait encore au monde des contes et des légendes et qui tout à coup apparaissait dans ma légende personnelle. Donc ça, c'était très marquant. Et la deuxième chose, c'était que c'était la découverte d'un animal mort. Parce que pour moi, le loup, c'était le grand méchant loup, l'animal menaçant, le prédateur. Et là, il était lui-même soumis aux lois de la nature, pris dans l'avalanche. Et donc, je le découvrais dans sa fragilité.
Alors, vous viviez concrètement au cœur du Mercantour ?
Nous vivions en alternance. Il y avait deux temps. Il y avait le temps de la vie d'en bas, la ville, l'école, la scolarité. Et puis, il y avait la vie d'en haut, qu'on attendait avec mes frères et sœurs avec impatience toute l'année. Et donc, il y avait cette transhumance et on montait, on décrochait de cette vie urbaine pour monter en altitude, donc dans ce refuge à 2400 mètres d'altitude, au cœur du Mercantour. Et là, c'était l'immersion dans le sauvage.
Et alors, vos parents faisaient quoi ?
Mon père était chef du service des randonnées au Conseil général des Alpes-Maritimes. Ma mère était kinésithérapeute.
Donc on peut dire que familialement, Caroline Audibert, vous aviez déjà ce patrimoine, cette sensibilité à la nature et peut-être autour de vous des engagements en faveur de la faune, la flore, la planète.
Oui, tout à fait. Ça vient même de plus loin encore, puisque mon grand-père a lui-même gardé les premiers refuges des Alpes du Sud. Et donc il y a eu une transmission comme ça, assez ténue, assez sourde, qui est devenue féconde et qui a généré des valeurs profondes.
Donc à partir de 13 ans, est-ce qu'on peut dire que pour vous, consciemment ou inconsciemment, il y a une quête de mieux comprendre, une quête de le voir peut-être, de le rencontrer ce loup, et puis de mieux comprendre ce qui se joue là, puisqu'on va en parler dans l'émission bien sûr, les crispations vont surgir assez rapidement.
Oui, tout à fait. Donc quand le loup a fait son retour, donc quand mon père a trouvé ce premier loup en 1993, deux animaux avaient été observés en 92 dans ce même vallon. Donc on savait que le loup revenait s'implanter, revenait depuis l'Italie. Et donc il arrivait aussi sur ces terres où j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse. Et donc tout à coup, la montagne se métamorphosait, c'est-à-dire que j'étais en terre de loup. Et donc évidemment, je me suis mise à rechercher des traces, des empreintes, des crottes, à prêter l'oreille, à peut-être à connaître certaines peurs quand je rentrais la nuit sur les chemins. Et ça m'a portée vers un désir de mieux connaître l'animal et de mieux connaître les raisons pour lesquelles il nous divise autant. Nous, les hommes.
Vous dites clairement dans votre livre qu'il y a ce sentiment d'un sujet gênant assez rapidement. Votre père n'a jamais su ce que la dépouille était devenue ?
Non, c'est ça. Il y a eu une sorte de secret. Il y a eu un saut du secret. Et c'est vrai que j'ai commencé à remonter cette piste des loups en essayant de retrouver ce qu'était devenu la dépouille du loup qu'avait trouvé mon père. Et ça m'a amenée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Là, j'ai fait la connaissance de Jacques Cuisin, qui était une rencontre importante. Il avait réceptionné le crâne de ce loup. Donc, 25 ans après, il m'a ouvert un petit peu les portes de cette histoire. Et ensuite, j'ai suivi la piste de cette enquête.
Et puis, en cherchant toujours à comprendre, parce que vous dites aussi très clairement que dès le début de votre quête, vous avez senti que le loup n'était pas seulement ce qu'en disaient les bergers, les écologistes et les politiques, et ce qu'ils en disent toujours aujourd'hui, mais qu'il est autre, c'est-à-dire.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a le loup, la représentation qu'on peut se faire du loup, le loup pour nous, finalement, et il y a ce qu'il est pour lui-même. Cette distinction serait valable pour tous les animaux sauvages, tous les êtres animés, mais oui, je pense qu'elle est importante à faire pour ne pas réduire justement l'animal à ce qu'il en est pour nous, c'est-à-dire un gêneur, un prédateur, un nuisible, comme il a longtemps porté ce visage du bouc émissaire.
Alors faites-nous découvrir, Caroline Audibert, ce parc du Mercantour. Combien concrètement dans ce parc y a-t-il aujourd'hui d'ailleurs de loups et que représente-t-il ? Parce qu'il faut quand même préciser que c'est l'un des 10 parcs nationaux de France situés donc sur les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence.
Oui, alors il faut toujours être prudent avec les chiffres. Ce sont toujours des estimations qui sont établies à partir d'indices de crottes d'observation et d'attaques constatées sur les troupeaux. Il y aurait une cinquantaine de loups sur le Mercantour. Et selon les derniers chiffres de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il y aurait 500 loups aujourd'hui sur le territoire. Donc pour donner un ordre d'idée, c'est environ 72 meutes établies.
Alors le parc du Mercantour, ça représente quoi ?
C'est le parc du bout des Alpes qui va donc. C'est l'endroit où finalement les loups sont le plus proche des baleines, peut-être dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une exception géologique, le patrimoine mondial de l'UNESCO la soulignera peut-être. C'est une sorte de carte pliée, chiffonnée, avec des reliefs assez abrupts qui plongent dans la mer. Et donc il y a une grande diversité géologique et donc une grande diversité d'espèces sur le territoire.
Eh bien, on va prendre la direction du parc tout de suite avec l'extrait de ce feuilleton qui a été diffusé sur France 2, Mercantour hors les sentiers battus, diffusé le 13 octobre 2016.
On est forcément attaché à ces loups puisqu'on travaille quotidiennement avec eux, on les voit tous les jours. C'est un petit peu comme nos collègues de travail, hein. On passe nos journées entières avec eux. Donc bien entendu qu'on a de l'affectif pour eux, quoi.
elle veut nous présenter Diana, sa louve préférée, qui vit seule dans son enclos.
C'est la reine du cache-cache. De toute façon, elle est très très peureuse. Et là, la présence de monde, un peu d'odeur. Parce que autant on pense qu'elle commence plus trop à voir grand-chose ou même entendre grand-chose, par contre, elle a un très très bon odorat.
Diana ne s'est jamais habituée à la présence humaine.
T'es où, ma grosse ? Des fois, on peut se poser 2 heures pour l'observer. Si elle nous voit, elle ne va absolument pas bouger. Et ça y est, je suis en train de la voir, d'ailleurs.
Mais l'entrevue est de courte durée.
C'est le même type de loup, c'est la même sous-espèce que le loup qui vit en France à l'état sauvage. Bien sûr qu'il y a des problèmes avec les éleveurs, parce que c'est vrai que le loup fait des dégâts quand il s'attaque à des troupeaux domestiques. C'est un problème qui est réel, qui est compliqué, mais moi ce que je pense aussi, c'est que cette cohabitation, à un moment donné, elle a existé et qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour qu'elle puisse réexister.
La rencontre pour vous, Caroline Audibert, a eu lieu quand ?
Très tardivement, puisqu'il m'a fallu aller dans les Abruzzes pour vraiment rencontrer un loup, ce que j'appelle vraiment rencontrer un loup, c'est-à-dire vraiment le voir, non pas subrepticement l'apercevoir, mais le rencontrer. Avant, dans le Mercantour, j'avais vécu un moment extraordinaire où j'avais entendu les loups hurler un soir, alors que j'étais seule dans la montagne, et je dormais dans une petite cabane, j'avais fait une retraite, c'était durant la rédaction de mon livre, et donc j'avais entendu une meute hurler, une meute chanter, comme disent certains. C'est beaucoup d'émotions. La montagne, encore une fois, se métamorphose et on se sent à une autre place que celle de l'homme conquérant, le dominus. On se sent différent.
À part égale ?
Peut-être à part égale.
La découverte de votre père, finalement, marque aussi le début des études, justement, sur le loup, pour en avoir une meilleure appréhension, même si aujourd'hui, vous allez nous l'expliquer, nous le dire, Caroline Audibert, on ne connaît pas encore la totalité de ce qui fait le loup, de son comportement, de sa façon d'être. Mais un parc alpha a été créé en 1995, dans le Mercantour, pour observer le loup, qui fut, donc, il y a longtemps, le grand mammifère le plus répandu de l'hémisphère nord après l'homme. Et ça, je pense qu'on l'a probablement oublié. Depuis ces études, justement, qu'est-ce qu'on a mieux découvert? Qu'est-ce qu'on appréhende? De quelle façon est-ce que ça a pu renseigner les scientifiques, les chercheurs et nous-mêmes sur le loup et sur son mode de fonctionnement?
On connaît de plus en plus le fonctionnement d'une meute qui est fondée sur la hiérarchie avec un couple alpha qui se forme et tout le cycle de reproduction. Alors bon, un parc comme celui du parc alpha ne permet pas d'aller jusque-là, mais on a ensuite mieux compris les mécanismes de dispersion. Et ça, on le doit beaucoup à des études de naturalistes américains, David Murch et l'Italien, évidemment, Luigi Boattani, qui ont fait vraiment beaucoup d'observations sur le terrain, donc soit dans les grands parcs américains, soit en Italie où le loup n'avait jamais disparu. Et donc ils ont pu mettre à jour ce phénomène de dispersion qui est assez efficace et c'est la raison pour laquelle le loup recolonise ses territoires perdus, hein, parce que le territoire du loup c'est l'Europe finalement, ici en Europe, ce sont évidemment toute la partie médiane des États-Unis, mais c'est en Europe, voilà, c'est le territoire du loup s'étend sur tous les pays européens. Et donc, il ne progresse pas par capillarité, mais en ce que Luigi Boattani a appelé les taches de léopard. C'est-à-dire qu'il y a un disperseur, un individu qui va aller parcourir même des centaines de kilomètres parfois pour trouver son territoire, trouver sa louve ou son loup et fonder sa propre meute. Donc vraiment, le loup, c'est un animal territorial qui a besoin de s'établir sur un territoire vierge.
C'est une question qui a suscité, on le sent dans votre livre, bien des discussions, bien des rapports houleux, même de la question de savoir, mais comment expliquer son retour ? Réintroduction ou retour naturel ?
Oui, c'est une question sur laquelle j'essaie de faire la lumière dans le livre. Donc j'invite les lecteurs à se faire leur propre idée, mais quand même tout tend à démontrer que le loup n'a pas eu besoin de l'homme pour revenir. Il continue de progresser, il continue de coloniser les territoires, que ce soit de l'Allemagne vers la France, de l'Italie vers la France, de la France vers l'Italie aussi parfois. de la Sibérie vers la Scandinavie.
Et alors pourquoi est-ce que cette question était aussi épineuse, aussi crispante dans les discussions ?
Tout à fait, on cherche des responsables. Le retour du loup a été tenu secret pendant 6 mois par le gouvernement. Et ces 6 mois-là, c'était le temps qu'il fallait pour s'assurer déjà de leur retour, de leur implantation, de leur éventuelle reproduction. Donc est-ce qu'ils étaient vraiment établis en France ou juste de passage ? Est-ce que c'était déjà des loups ? Donc ça, c'était les scientifiques du muséum qui devaient l'établir.
Et il y a des recherches scientifiques sur l'ADN aussi. Hein, sur
absolument. Tout, voilà. Ça, c'était, mais c'était plus tard. Ça, c'était en 96 finalement. Les recherches sur l'ADN, mais qui ont été déterminantes
dans les conclusions
voilà, de ce scénario. Le loup n'avait pas de statut juridique. En fait, il dépendait du statut juridique hérité du 19e siècle, qui était le droit fondé sur la propriété. Le loup était considéré comme un nuisible à détruire, évidemment. La France avait signé la convention de Berne, mais elle n'était pas ratifiée, donc elle n'était pas effective. Et donc il a fallu que le ministère s'occupe un petit peu de toutes ces questions. Et il y a la directive Habitat qui a été donc signée en 1993, l'été je crois, 1993. Et donc ça a pu permettre de faire du retour du loup non plus un secret, mais
une réalité. Et l'espèce est protégée en France depuis quand ?
Donc l'espèce est protégée en France depuis cette date-là, 1993.
En tout cas, ce retour du loup suscite encore ces conflits avec les éleveurs et les bergers, et pour cause bien évidemment. Écoutez ce témoignage diffusé sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'était le 7 décembre 2018.
C'est ici, sur les hauteurs de Bray-sur-Roya, auprès de ces 25 vaches de race tarine, que Jérôme Bouhéry vient tous les jours se ressourcer. C'est aussi ici que pendant 25 ans, il a possédé plus de 400 brebis. Un immense bonheur, une véritable passion pour ce fils d'éleveur qui voulait se démarquer de l'élevage que pratiquaient ses parents. Mais dans les années 90, le loup s'installe dans la vallée, débutent alors les premières attaques.
Un soir en année 93, j'arrive pas loin d'ici et j'en ai trouvé 14 mangés par le loup dans la même nuit.
La dépression s'installe. En 2015, il décide de tout arrêter et d'élever désormais que des vaches.
J'ai repris les racines de mes parents, j'ai repris des vaches, en me disant que peut-être ça sera la solution pour être moins énervé chez moi et puis pour être mieux dans mon corps.
Le traumatisme est fort, il a fallu repartir à zéro, réinvestir, prendre un crédit sur 10 ans. Mais la flamme pour ce métier d'éleveur, elle, a totalement disparu.
Le froid, il n'y a pas d'espoir pour moi, c'est foutu quoi. Pour les collègues, c'est foutu. Il n'y a plus aucun espoir.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Une réaction peut-être, Caroline Audibert. C'est vrai que forcément, le retour du loup se matérialise par des attaques et que les éleveurs, les bergers en subissent les conséquences avec beaucoup de douleur. Hein. On sent la désespérance de cet éleveur qui a complètement modifié sa vie, qui est en pâtit. Et puis, dans d'autres cas, ça suscite, on le sait, des luttes ou des rencontres violentes hein, entre les défenseurs et puis les anti.
Tout à fait. Jérôme Bouhéry, et c'est quelqu'un qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la réalité de la présence du loup. Enfin, lui, il était l'un des premiers bergers à être attaqué en 1992, donc avant même que le loup était vu. Et il m'a dit « le loup m'a volé ma vie ». Et ça a duré, c'est-à-dire 20 ans de sa vie, où il devait... rester sur les lieux de l'alpage plutôt que de regagner le soir le village et sa vie de famille. Voilà, c'était comme s'il devait vivre avec un fantôme, un ennemi qu'il ne voyait jamais mais qui lui causait beaucoup de soucis, de pertes, etc. Donc même s'il y a un soutien au niveau financier, même si il y a une prise en compte donc des dommages et une prise en compte qui est de mieux en mieux assumée par l'État, par le ministère donc de l'Agriculture et de l'Environnement, il y a une souffrance morale. Et donc lui a choisi de s'adapter, ça a été une grande rupture dans sa vie, mais qui laisse aussi présager des solutions, c'est-à-dire que lui a choisi de passer de l'élevage ovin à l'élevage bovin, qui était... Finalement, l'élevage traditionnel, c'est l'élevage qui existait dans ces contrées depuis 1000 ans.
Mais sinon, pour les bergers, est-ce que vous diriez que le loup est responsable de la fragilisation de leur profession ?
Alors, c'est une question épineuse. La fragilisation de leur profession a peut-être commencé bien plus tôt, quand les prix français ont dû s'aligner aux prix mondiaux. Donc ça, c'était dans les années 80. Et donc en 30 ans, il y a eu une chute de 60% de l'élevage au vin en France. Donc c'est effectivement une profession qui est fragilisée par l'économie finalement, par la mondialisation, avec la concurrence avec des pays comme le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande. Et le loup, c'est vrai, vient s'ajouter à
cet état des lieux. Oui. Vous nous racontez aussi dans votre livre des moments, des histoires comme celle de ces éleveurs empoisonneurs, condamnés. D'ailleurs, un sera condamné en 2003 au tribunal de grande instance de Nice. Donc il y a vraiment non seulement une désespérance, mais aussi des actions contre le loup. Le loup, espèce protégée, même si il y a un certain nombre de loups autorisés en prélèvement. Prélèvement à peu près de quoi, 10% de la population.
Oui, c'est ça, exactement. Pour le moment, c'est 10%. Là, les effectifs de loups atteignant les 500 individus, il y aura peut-être une redéfinition parce que les scientifiques avaient jugé que c'était le seuil de viabilité de l'espèce.
Et alors concernant ces éleveurs empoisonneurs, votre regard peut-être, il faut expliquer comment ils agissaient ou ce qui s'est passé. Il y a encore ce genre de procédé ou d'acte de faire en sorte d'empoisonner les loups en les appâtant avec des brebis porteuses d'ampoules de poison ou badigeonnées avec un produit toxique?
Il y a peut-être des cas d'empoisonnement. Il y a une brigade qui existe en Italie qui s'occupe de traquer justement donc à la frontière alpine de l'Italie et de la France. Cette brigade s'occupe de traquer les pièges, les animaux empoisonnés. Donc c'est une pratique qui existe. Il y a du braconnage, c'est certain. Et il y a aussi des tirs de prélèvement officiels. Donc c'est vrai que
le tableau n'est pas facile à analyser ou pas facile de savoir précisément ce qui s'y passe, sachant que les loups naviguent dans cet espace complètement naturel et qu'ils ne se laissent pas forcément compter, bien évidemment, par les hommes. Vous nous racontez, vous parliez du braconnage, vous nous racontez aussi la rencontre que vous avez faite en prison avec un chasseur, peut-être braconnier, on ne sait pas. C'était en 2016 et la rencontre avec Jean-Philippe Paoli. Et suite à cette rencontre, sa mère vous a envoyé une lettre.
Oui, c'est Jean-Philippe Paoli qui a demandé à sa mère de m'envoyer un conte que je trouve très très beau. Et c'est le conte « La parabole des deux loups ».
Vous pouvez nous la lire ?
Oui. Un vieil Indien qui enseignait sa sagesse à son petit-fils lui dit un jour, alors qu'ils étaient au coin du feu, « En chacun de nous se déroule une bataille qui ressemble beaucoup à une bataille entre deux loups. L'un d'eux est animé par la jalousie, les remords, l'égoïsme, l'ambition, le mensonge. L'autre loup défend la paix, l'amour, l'espérance, la vérité, la bonté, la fidélité. Ému par les paroles de son grand-père, l'enfant demeura songeur quelques instants. Des ombres dansaient au-dessus des flammes et se poursuivaient dans la forêt. Puis il demanda, « Et des deux loups, lequel gagne finalement ?» Avec un léger sourire, le sage répondit « Gagne toujours celui que tu nourris ».
Une belle morale, hein ? Quelle a été votre réaction quand vous avez découvert cette lettre envoyée ?
J'étais très émue. C'est une histoire que je ne connaissais pas. J'ai cherché d'où elle venait et je l'ai trouvée très inspirante. Elle est très simple, mais très profonde. Elle exprime bien aussi la proximité qu'il a pu y avoir entre les hommes et les loups. Parce que c'est le premier animal domestiqué, il y a peut-être 30 000 ans. Donc c'est vraiment une très très longue histoire finalement, celle des loups et des hommes.
Autre découverte avec vous, Caroline Audibert, c'est votre choix musical. Vous nous proposez aujourd'hui...
Mon loup, justement, par Laura Cahen.
Et il y a une raison particulière ?
Elle me fait sourire, elle est légère et elle détend un petit peu l'atmosphère autour de la question du loup. Et surtout, elle exprime cette même proximité entre l'homme et le loup. «
passer à la casserole. Je vais prendre tes jambes à mon cou, te cuisiner me rend folle. Je veux te mariner mon loup, te griller les moustaches à la poêle. Je vais te faire revenir à feu doux, crois-moi cette recette est au poil là. Prendre le temps de te rendre fou, te ferai mijoter au bain-marie. Je veux te découper mon loup, t'éplucher comme une orange. Tu ne feras plus de zeste du tout et je n'aurai plus faim, c'est étrange. Ah,
De cause à effet, c'est la suite de notre émission sur France Culture consacrée aujourd'hui à Caroline Audibert, philosophe de formation, journaliste et auteure du livre « Des loups et des hommes » paru aux éditions Plomb. Une plongée dans sa quête de mieux comprendre cet animal honni par certains, défendu par d'autres et pour interroger aussi avec elle le rapport que nous entretenons avec le loup de retour dans l'Hexagone depuis 25 ans et qui, dès lors, est devenu un animal politique.
Vous le savez, alors qu'il avait disparu, le loup, qui est une espèce protégée, fait naturellement son retour en France depuis maintenant près d'un quart de siècle. C'est une très bonne nouvelle pour la biodiversité qui, et c'est bien de le garder à l'esprit, la biodiversité qui est un bien commun de l'humanité. Mais pour les éleveurs, c'est une difficulté supplémentaire, c'est un véritable défi parce que eux, au quotidien, ils sont au contact souvent des loups et ils font face à la prédation des loups sur leurs troupeaux. Alors avec ce nouveau plan, le gouvernement se fixe un double objectif. C'est évidemment d'assurer la viabilité qui pour l'instant était incertaine de l'espèce sur notre territoire. Le nombre actuel des 360 loups est encore insuffisant et nous visons au moins 500 loups avant la fin du quinquennat, conformément à nos engagements pour la biodiversité et à ce que préconisent les scientifiques. Le deuxième objectif, c'est la protection des éleveurs et des troupeaux. Car personne, en tout cas pas moi, ne peut rester insensible à la détresse et à la souffrance de celles et ceux qui sont confrontés aux conséquences des attaques sur leurs troupeaux. Et donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit car la vie d'une brebis, le bien-être d'une brebis est, de mon point de vue, aussi important que le bien-être du loup. Et on souhaite donc faire de l'accompagnement des éleveurs et du renforcement des mesures de protection des troupeaux désormais une priorité absolue. N'ayez pas l'ombre d'un doute. La biodiversité, c'est notre avenir. En protégeant la biodiversité, on protège l'humanité.
C'était Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire. Il s'exprimait ainsi le 8 janvier 2018. Concrètement, Caroline Audibert, qu'est-ce que vous attendez des politiques? Est-ce que c'est de leur côté qu'il y aura des solutions dans cette stratégie du compromis, mais surtout dans cette envie de vivre ensemble, c'est-à-dire entre les hommes et les loups?
Oui, c'est sûr que le gouvernement a un rôle majeur à jouer. On l'a vu là, lors du dernier plan loup, qui est programmé donc jusqu'en 2023. il y a un meilleur accompagnement des éleveurs, un renforcement dans l'accompagnement de la mise en place des mesures de protection. Également un renforcement dans la prise en charge des dommages. On prend en compte maintenant les dommages, non seulement les dommages directs, mais également les dommages indirects, c'est-à-dire qu'une attaque de loup peut générer du stress sur un troupeau, des avortements, une désorganisation auquel l'éleveur va devoir faire face.
Quand vous parlez des solutions et des mesures de protection, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a proposé aux éleveurs pour protéger quand même leur bétail, leur élevage, puisque là on parle des compensations, elles sont financières, mais elles ne réparent pas justement le trauma de découvrir les bêtes égorgées. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour les protéger, ces troupeaux?
Donc il y a évidemment la mise en place des filets, des parcs de nuit pour protéger les troupeaux la nuit. Donc ce sont des clôtures électriques qui demandent beaucoup de temps à être installé parce qu'il faut bouger ces fameux parcs pour ne pas que les bêtes soient tout le temps contenues aux mêmes endroits, sans quoi elles développent aussi des maladies comme le piétin qui peut foudroyer un troupeau en quelques semaines. Les chiens, évidemment.
Donc les
chiens
fameux
de protection, les patous. Ça, c'est vraiment peut-être la mesure la plus effective, la plus efficace. Il y a un personnage que j'ai rencontré au cours de mon enquête, qui est devenu donc un personnage de ce livre, qui s'appelle Magali Allard. Elle exerçait dans le dévolu. Elle a rejoint les Pyrénées aujourd'hui. C'est une éleveuse de brebis donc à viande, et elle a fait le pari du vivre ensemble. Donc elle a pris des chiens, elle a 9 patous pour un troupeau assez conséquent. Donc c'est une bonne proportion, parce qu'il faut trouver la juste proportion entre les chiens de protection et les bêtes. Dans les Abruzzes, il peut y avoir 6, 7, 8 chiens pour des troupeaux laitiers de 200 têtes. Et c'est vrai qu'en France, on n'atteint pas ce ratio-là. Donc on n'atteint pas encore une protection suffisamment efficace. Il y a des études qui sont menées par le biologiste Jean-Marc Landry, accompagné de Gérard Milichère, qui est aussi un personnage important du livre, et lui qui étudie justement l'impact et le travail des chiens sur le troupeau et en présence des loups. Donc on est à l'aube finalement de découvertes et on est à l'aube
de solutions potentielles, pour vivre ensemble.
Le loup est revenu, il s'agit d'inventer de nouvelles manières de vivre, de nouveaux modèles et de réinventer finalement le pastoralisme.
Il est temps de faire entrer notre invité de la seconde partie et voici ce qu'il disait sur nos antennes le 20 mai 2018.
Quand vous parlez du loup qui lui est revenu tout seul, je précise, il est revenu tout seul parce que des espaces sont libérés en France. La forêt est revenue, hein, depuis 200 ans, la forêt a doublé de surface. Des parcs nationaux ont été créés dans les Alpes. Les populations d'ongulés, de chamois, de bouquetins, de cerfs ont été multipliées énormément. Donc toutes les conditions pour qu'un prédateur arrive et s'établisse étaient là. Donc il est venu en voisin depuis l'Italie et il s'est trouvé bien. La France est un pays vraiment béni des dieux. Il y a énormément de choses. Les gens sont prêts à venir de l'Europe entière pour venir voir les ours, justement, dans les Pyrénées, pour venir voir les saumons qui remontent la Loire, pour venir voir les bouquetins des Alpes, les bouquetins des Pyrénées. Ce sont deux espèces différentes. Pour venir voir les guépiers, pour venir voir les vautours. On a les 4 espèces de vautours en France, ce qui est unique en Europe. Il y a énormément de choses. Il faut le favoriser.
Et cet invité surprise fait son entrée dans le studio. Il s'agit de Stéphane Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, naturaliste, auteur de documentaires et conseiller scientifique sur les films de Jacques Perrin, notamment donc Le Peuple migrateur, Océan et les saisons.
Moi,
je n'oublie rien.
Ça,
hein. Et donc auteur du livre 20 000 ans ou la grande histoire de nature, c'est le dernier paru chez Actes Sud. Et auparavant, vous aviez commis avec Gilbert Cochet Réensauvageons la France, toujours paru chez Actes Sud. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux? Caroline Audibert.
J'ai eu le plaisir de rencontrer Stéphane lors du festival Montier-Andère, de la dernière édition, oui.
Et donc tous les deux, vous avez dû croiser à ce moment-là, on imagine, hein, votre regard, regard positif sur cette nature qui résiste et qui revient, Stéphane Durand. C'est vous, vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui porte une parole ou négative sur ce rapport, cette relation entre l'homme et le sauvage, parce que vous sentez que le sauvage, il est en train de reprendre ses droits.
Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, si on commence à prendre la parole, c'est pour passer un message positif. Sinon, il vaut mieux Serge, je pense.
Votre engagement à vous, Stéphane Durand, il remonte à quand ?
Depuis toujours. Non, mais depuis que, effectivement, les études de biologie, puis après toute la grande aventure, qui n'est pas terminée d'ailleurs avec Jacques Perrin, auprès de lui pour faire ses films sur la nature, on parcourt le monde pour montrer les merveilles de la nature et montrer combien elle est fragile. Puis depuis peu de temps, l'aventure avec les éditions Actes Sud, avec cette belle collection qui est née il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle Monde Sauvage, dans lequel j'essaie de faire résonner des choses qui existaient déjà dans la collection de Jean Mallory, Terre humaine, où Caroline a publié son livre.
Et alors le loup, vous l'avez appréhendé dans vos pérégrinations, notamment avec Gilbert Cochet ?
J'ai jamais vu le loup, on a trouvé ses traces dans le Vercors. Parce que pour écrire le livre Réan Sauvageon, la France avec Gilbert, en fait, on l'a écrit en marchant, on l'a écrit avec les pieds. Gilbert connaît très bien le Vercors et on a arpenté en tous sens les hauts plateaux du Vercors et voilà, au cours de ces randonnées dans lesquelles on rêvait du livre, on l'imaginait, on l'écrivait, on prenait des notes, on s'enregistrait tout en marchant. On est tombé sur des traces et c'était pour moi la première fois que je voyais des traces de loup. Ça n'a pas été plus loin, mais c'est déjà énorme.
Alors le parcours justement de Caroline Audibert depuis l'enfance, c'est un engagement que vous avez découvert donc tout récemment, Stéphane Durand, mais ça vous interpelle aussi. Vous avez peut-être une question à poser à Caroline Audibert concrètement.
Oui, quand est-ce qu'on travaille ensemble pour la collection Monde Sauvage. Non, je pourrais juste dire un petit mot sur son livre parce que vraiment, déjà, il est très très bien écrit. La plume est vraiment fantastique. Je trouve que c'est vraiment merveilleux de l'avoir publié chez Terre Humaine parce que cette collection qui est un peu mythique, hein, c'est fondée par Jean Mallory il y a 50 ou 60 ans, qui avait pour ambition de donner la parole aux sans-parole, justement, aux invisibles, mais à tous les humains qui ne peuvent pas parler et dont qu'on ne voit pas. Alors ça peut être les Inuits du Groenland, mais ça peut être un paysan d'Auvergne ou de Bretagne ou un Indien d'Amazonie. Donc cette démarche est extrêmement intéressante. Et avec Monde Sauvage et Actes Sud, on a voulu porter la démarche un peu plus loin pour donner la parole à d'autres sans-parole que sont les autres vivants, les vivants non humains. Et en fait, le livre de Caroline fait bien la jonction entre les deux collections. Et je pense que son livre aurait pu trouver sa place dans Monde Sauvage.
Donc finalement, vous vous retrouvez tous les deux sur cette question de la dette envers le vivant. Il nous faut favoriser ce retour à la nature sauvage, Caroline Audibert.
Je pense que la question du sauvage doit être au cœur de notre vie. On a parfois l'impression que c'est une question marginale qui concerne une frange seulement de la société. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est une question qui pourrait être au cœur de nos vies et de la vie de chacun.
Est-ce que finalement ce sauvage il ne pâtit pas aussi du fait que de plus en plus la population mondiale, d'une manière générale, est très urbaine et donc se coupe aussi de ce rapport à la nature ?
Oui, on vit une époque du monde fini, disait Paul Valéry, du rétrécissement de la Terre, donc avec une urbanisation grandissante des espaces. Mais on peut, et le livre de Stéphane et de Gilbert le montre très bien, on peut constater qu'aujourd'hui, malgré cette dynamique-là, il y a un regain de la nature, du sauvage, et le loup revient aussi nous témoigner de cette force vitale.
Regain du sauvage. Stéphane Durand, sur des espaces encore vierges, parce qu'il faut les préserver ceux-là quand même.
Bien sûr, il faut les préserver, mais il se trouve que pas mal de vie sauvage arrive à trouver sa place dans les interstices, parfois même au cœur des grandes villes. Donc il faut des espaces sauvages, mais en fait il faut tout. Il y a des espèces qui ont besoin d'immenses espaces sauvages, où ils ne sont pas du tout perturbés par les activités humaines, mais il y a plein d'animaux qui vivent au plus proche de nous, sans même qu'on s'en rende compte. Et ce que vous disiez sur la protection de la nature, il faut rappeler un fait historique. C'est vraiment au cœur des villes qu'est née l'envie de protéger la nature, paradoxalement. Au 19e siècle, c'est dans les grandes villes allemandes et britanniques et américaines qu'est née la conscience écologique et l'envie de protéger les espèces. C'est parti de là, vraiment. On vit une époque paradoxale. On est très urbain, on n'a jamais été aussi nombreux. En même temps, on n'a jamais eu autant envie de protéger la nature. On observe un rien sauvagement, le loup en est le témoin et plein d'autres espèces aussi. D'un autre côté, il y a tout un pan de la biodiversité qui s'écroule.
Et alors, il y a des associations qui jouent un rôle formidable. Il faut parler de l'ASPAS, Stéphane Durand, l'Association pour la protection des animaux sauvages, qui agit donc pour la protection de la faune et de la flore, pour la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel. Comment ça se passe? C'est une association indépendante?
Complètement, 100% indépendante, parce qu'elle ne vit que des dons et des adhésions du public. Donc, il n'y a aucune subvention, ni publique, ni privée. C'est que les adhérents, les milliers d'adhérents qui envoient leur cotisation chaque année, plus des gens qui font des dons parfois exceptionnels, soit en argent, soit carrément en terrain. L'association reçoit des legs de terrain à partir desquels on essaye de bâtir des réserves de vie sauvage. Et là, ça démontre que, tout à l'heure, vous parlez de la politique, on a entendu Nicolas Hulot, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux. Il y a quelque chose, en tout cas, que les citoyens peuvent faire, et voilà, les citoyens n'attendent pas. Il n'y a pas grand-chose à attendre, finalement, des hommes politiques. Et d'ailleurs, les citoyens n'attendent plus rien d'eux, on l'a vu cette dernière semaine. Et des actions comme celle de l'ASPAS, où les gens se serrent les coudes, se réunissent, et en mettant quelques euros, ça fait boule de neige, et on peut acquérir du foncier. Voilà, maintenant, protéger les espaces naturels et sauvages, la meilleure protection, c'est de devenir le propriétaire de cet espace-là. Donc, l'association ASPAS, fait appel à la générosité citoyenne, comme ça.
Et possède combien de terrains, concrètement, qu'on ait une idée un petit peu de peut-être des parcs qui appartiennent à l'ASPAS qui jouent ce rôle-là?
Il y a quatre réserves, deux dans la Drôme, une en Bretagne et une autre dans les gorges de l'Allier.
Quelles sont les espèces alors qu'on trouve dans ces lieux-là?
Dans celle du Vercors, on trouve du chamois, du bouquetin, on trouve les vautours, on a mis des pièges photos et on a vu le passage du loup. Donc il n'est pas installé, mais il passe par là. Dans celle du Léguer, qui est un fleuve côtier en Bretagne, c'est l'une des plus belles répisylves magnifiques de Bretagne qui est ainsi protégée. La répisylve, c'est la forêt de rivière. C'est vraiment la forêt qui pousse en bord de rivière et dont les racines trempent dans l'eau. On observe la loutre et le retour du saumon.
Nous, public, on peut y accéder ou pas?
Bien sûr. Ah oui. Alors, on veut surtout pas mettre ça sous cloche et mettre derrière des barbelés. Non, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr.
Caroline Audibert, l'ASPAS, donc cette association.
Oui, ça me semble fondamental de pouvoir aujourd'hui préserver des espaces de libre évolution où on ne va pas chercher des ressources, où la nature n'existe pas seulement pour l'homme, mais également pour elle-même.
Donc vous connaissiez en tout cas ces activités, ces actions concrètement?
Oui, tout à fait. Surtout que là, ils sont en train de boucler un financement participatif pour fonder cette réserve de 500 hectares dans le Vercors.
Ouais. Troisième réserve en vue dans la Drôme, effectivement, sur le Vercors. Un endroit vraiment magnifique, 500 hectares d'un seul tenant, ce qui est vraiment unique en France, c'est une grande première. Les citoyens vont arriver à protéger 500 hectares d'un coup, c'est merveilleux.
Et ensuite, comment c'est géré alors ce genre de domaine, justement, par une association comme l'ASPAS?
Donc l'association est propriétaire, de fait, mais enfin tous les adhérents sont propriétaires de cet espace-là, et nous formons une espèce de compagnie de guides ou de gardiens qui sont là pour veiller à ce que la réglementation, pas de chasse, pas de pêche, pas de coupe de bois soit respectée. Donc on a des gardes assermentés, nous les formons, et des gens qui accompagnent le public aussi. L'autre aspect, c'est vraiment de mobiliser les gens, favoriser le contact entre les gens et la nature. Parce que c'est en allant au contact de la nature que les gens déjà voient comme elle est belle, voient aussi tous les bienfaits que ça leur apporte, et après, dans un second temps, ont envie d'en savoir plus, de la protéger.
Mais aller au contact de cette nature sauvage, tout en la respectant, c'est-à-dire tout en gardant sa place, non pas celle de l'homme tel qu'il est ou tel qu'il a été dans l'histoire, c'est-à-dire dominateur, mais revenir à un statut équivalent, c'est-à-dire regarder cette nature sans chercher à mettre sa marque, sa patte, et la détériorer. Donc il faut aussi éduquer, vous pensez, Stéphane Durand, ou rééduquer peut-être pour qu'on arrive à quel vivre ensemble idéal? C'est quoi le vivre ensemble entre l'homme et le sauvage pour vous?
Oui, mais c'est tout à fait possible. De toute façon, dans l'histoire de l'humanité, on montre bien que l'essentiel de l'histoire de l'humanité a été de vivre au milieu, intégré au milieu de cette nature. En fait, cette position dominante dont vous parliez à l'instant, elle ne date que d'il y a quelques siècles, au final. On a fait un pas de côté et on a été un peu grisé par le progrès technique et cette sensation de maîtrise absolue, et on a coupé le contact. Mais Mais c'est très facile, très très facile de le retrouver. Il faut amener les gens, les prendre par la main, aller leur montrer une marmotte, un vautour, un chamois, un cachalot, un requin. Et franchement, les gens en reviennent complètement bouleversés. Hein. Mmh. Ça marche à tous les coups.
Il faut rappeler qu'il y a eu des opérations de réintroduction depuis les années 1981. Bouquetin, giapette barbu, vautour fauve, mouflon.
Ouais, ouais. Ours dans les Pyrénées, il y a comme un très bel exemple. Là, il y a quelques semaines, les deux ours femelles qui ont été réintroduits dans les Pyrénées. Donc là, ce qui se passe dans les Pyrénées avec les ours, c'est vraiment fantastique. Parce que dans les années 90, tous les naturalistes disaient, bon ben voilà, à court terme, on va pouvoir annoncer la disparition des ours des Pyrénées, terminée, amen. Et en fait, ben non. On est passé de 2 ou 3 ours dans les années 90 à plus de 40 cette année. Donc dans 2 ans, on va atteindre les 50 ours dans les Pyrénées. C'est incroyable, c'était incroyable il y a 20 ans.
En sachant malgré tout, hein, Caroline Audibert, que le loup et l'ours restent ces deux quand même espèces au nid. Même quand il y a des réintroductions, on voit bien, il y a ceux qui barrent les routes, il y a les Antilles qui sont toujours là. Le loup et l'ours génèrent toujours ces tensions.
Je tiens aussi à souligner dans les Pyrénées, dans le cas de l'ours, il y a une association de bergers du Haut-Béarn qui imprime la patte de l'ours sur leur tome de brebis. Et donc l'ours est devenu finalement le symbole un petit peu de leur activité. Ça s'appelle, ils ont créé un label qui s'appelle le Pédescao, qui marque leur adhésion à l'ours et leur engagement dans la défense de la biodiversité, qui valorise également leur activité de production de fromage. Donc le consommateur peut aussi choisir de soutenir ces éleveurs et ces bergers qui sont engagés dans cette
démarche
de coexistence, de cohabitation.
On assiste vraiment à un changement de paradigme, là, puisque le nombre de bergers qui apprennent à vivre avec les loups ou les ours est en augmentation. Les ultras, les Antilles, finalement, sont de plus en plus faibles, de moins en moins nombreux. Mais voilà, c'est une nouvelle génération de bergers qui est en train d'apparaître.
En tout cas, en France, parce que, par exemple, dans les Abruzzes, on le voit avec le cas où l'ours et le loup sont présents depuis toujours, les hommes n'ont jamais oublié, ont toujours continué d'apprendre à vivre avec ces prédateurs-là. Et je parlais pas plus tard qu'au mois de septembre avec l'un des éleveurs des Abruzzes, qui a un troupeau de brebis laitières. Lui, il me dit, mais le loup, c'est pas tellement un problème pour moi. Ce qui me gêne davantage, ce sont les cervidés. Parce que les cervidés vont paître dans les prés de fauche, et donc il avait un manque à gagner sur sa production de foin, et donc il était obligé de racheter du foin, et ça, c'était pas pris en compte, c'était pas indemnisé par l'Europe. Il disait que le loup, dans les Abruzzes, pouvait se reposer sur une population de cervidés très importante, très dynamique. Et c'est peut-être aussi là le secret de la coexistence, c'est-à-dire qu'il faut effectivement réensauvager les espaces pour que un équilibre naturel puisse s'instaurer et que les prédateurs puissent avoir suffisamment de proie pour ne moins reporter la prédation sur les animaux domestiques.
Stéphane Durand, on parlait de personnes qui essayent justement de réfléchir, de trouver des solutions pour tous, parce qu'il n'y a pas, et d'un côté, enfin les loups, et de l'autre côté, les bergers, les éleveurs. Il faut vraiment arriver à cette symbiose et à se vivre ensemble en harmonie et de façon apaisée. Est-ce que vous-même, de votre côté, ou avec l'ASPAS, vous avez réfléchi à des solutions peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé, ou quels sont, selon vous, le meilleur moyen d'éviter justement les tensions, les confrontations qui existent encore aujourd'hui quand il y a des réintroductions d'ours ou d'autres animaux sauvages?
Alors sur le cas du loup ou le cas de l'ours, l'ASPAS n'est pas en tête de lutte parce qu'il y a des associations comme Férus ou comme Pays de l'Ours dans les Pyrénées qui sont vraiment spécialisées là-dessus. Mais l'ASPAS vient apporter un soutien notamment juridique parce qu'elle a une très grosse expérience depuis 30 ans dans les actions juridiques pour faire tout simplement respecter la loi. Parce que la loi est rarement respectée sur les espèces nuisibles ou sur les dates de chasse ou sur les moyens employés par les chasseurs, sur le braconnage, sur le piégeage. Voilà, donc l'ASPAS apporte à ces associations-là son savoir technique sur les actions juridiques. Oui.
On oublie, hein, Stéphane Durand, que la France accueille la plus grande biodiversité européenne.
Ouais. Et ça depuis la fin de l'âge de glace, donc depuis presque 20 000 ans. Mais parce que la France est, comme je dis dans le livre, un pays béni des dieux. On est au carrefour de toutes les influences climatiques. On est pile à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. On a l'influence de l'Atlantique. On a l'influence de climat continental sur la frontière Est. On a des montagnes jeunes, des montagnes anciennes. On a des plaines alluviales. On a plein de fleuves. On a des côtes rocheuses, des côtes sableuses, des deltas. Enfin, on a tout.
Mais on a oublié. On a tout, l'abondance de la faune et de la flore en France, on a oublié.
Ouais, l'abondance, et je dirais même la surabondance. On n'imagine pas comme les insectes, les poissons, les oiseaux, les mammifères ont été mais en troupeau hallucinant.
Et alors aujourd'hui, dans ce tableau du sauvage en France, quelles sont les espèces encore menacées, en tout cas sur liste rouge, et qu'il faut absolument préserver?
Et bien là, paradoxalement, c'est la nature ordinaire. Celle qui peut craindre l'extinction aujourd'hui, c'est vraiment la biodiversité, la nature ordinaire, celle à laquelle on n'a jamais fait attention parce qu'on la croyait vraiment indestructible et on la voyait partout. Ce sont les moineaux, les hirondelles, tous ces petits oiseaux des champs, les papillons, les escargots, les fleurs des champs, les insectes. On parle beaucoup des abeilles domestiques, mais l'abeille domestique, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément d'autres abeilles qui font du miel et qui pollinisent, qui sont elles sauvages, qui sont souvent solitaires, dont on ne parle jamais. Et tout ça disparaît en silence. Maintenant, se promener dans la campagne et entendre une alouette des champs, c'est extraordinaire.
Caroline Audibert, il y a un moment fort aussi dans votre livre, c'est quand vous décrivez votre entrée dans la grande galerie de l'évolution au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, avec toutes ces espèces disparues à jamais ou en voie de disparition autour de vous.
Oui, c'est un moment assez poignant parce que là, c'est une sorte de résumé de notre histoire houleuse à l'égard des espèces. Et c'est vrai que c'est la liste des massacres, c'est-à-dire que on voit toutes sortes d'animaux exotiques, naturalisés, des animaux même que moi j'avais jamais vus et qu'on ne verra jamais, plus jamais. Ils m'ont fait très très forte impression, c'était comme des dieux antiques, des dieux qu'on n'honorait plus et qu'on ne pourrait plus jamais honorer. C'est un lieu assez symbolique de notre dette à l'égard du vivant, et c'est une dette qu'on est en train d'essayer de réparer aujourd'hui.
Notre dette envers la terre, et je cite justement une de vos phrases, « Le temps de la conquête d'une terre regorgeant de contrées inconnues est révolu. Nous ne sommes plus de grands découvreurs, seulement les gestionnaires d'une nature finie. Nous sommes les endettés du vivant. C'est cela que le loup me souffle, lui qui revient. » Stéphane Durand, mais elle revient, cette nature sauvage. Et c'est là où il faut effectivement, au contraire, se positionner autrement, comme vous disiez, à hauteur des animaux.
Exactement, il y a plein de bonnes nouvelles et c'est ça qu'il faut favoriser parce que les solutions existent et la nature nous propose plein de pistes étonnantes qu'il faut favoriser.
Allez, un mot de la fin peut-être, si vous voulez ajouter quelque chose, l'un et l'autre. Caroline Audibert.
Je voulais peut-être donc citer John Muir, à qui on doit... en partie la création du parc national du Yosemite. Et il dit cette phrase très belle, « Lorsqu'on tire un seul fil de la nature, on découvre qu'il est attaché au reste du monde. » Et c'est une belle invitation au lien, finalement, à la culture de la réciprocité.
L'espèce humaine, c'est quand même une espèce assez dingue. On est capable du pire comme du meilleur, parce que effectivement, plein d'espèces ont disparu par notre faute, mais c'est aussi nous qui sommes capables d'élever un monument à la mémoire d'une espèce disparue, comme le pigeon migrateur. Il y a un monument qui a été institué dans le Wisconsin, aux États-Unis. Ce pigeon remplissait le ciel chaque automne et jusqu'à la fin du 19e siècle, et ils ont tous été exterminés un par un. Mais on est capable de construire un monument en sa mémoire. Rien n'est perdu. On a les ressources en nous pour qu'on aille vers quelque chose de mieux, quoi. Donc voilà, il faut favoriser ces bonnes ondes.
Merci à tous les deux, Caroline Audibert. Je rappelle le titre de votre livre, « Des loups et des hommes, enquête en terre sauvage », paru chez Plon. Stéphane Durand, deux livres à citer, « 20 000 ans ou la grande histoire de la nature » et le livre commis avec Gilbert Cochet, « Réensauvageons la France », paru aux éditions Actes Sud. Et comme toujours, bien sûr, toutes ces informations, le lien vers l'ASPAS sont à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique De cause à effet, la semaine prochaine, nous regarderons du côté de la CNDP, la Commission nationale du débat public, et nous serons en compagnie de sa présidente, Chantal Joanneau, et c'est l'océanographe Gilles Boeuf, président du Conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, qui nous rejoindra en seconde partie de l'émission. Bon week-end à tous, et sans plus attendre, place à l'actualité et au journal avec l'équipe de la rédaction de France Culture.